Bonjour à tous. Alors, j'imagine que nous préparons déjà tous Noël chez nous. Il y a beaucoup de choses à voir, il faut poser les congés. Ça, j'espère que vous l'avez fait avant, c'est peut-être un peu tard sinon. Il faut se mettre d'accord avec les familles, qui vient chez qui. Même déjà commencer à prévoir les cadeaux, les courses à faire, c'est la période des promos. Il y a plein de choses à préparer en vue de Noël. Mais là, j'ai parlé que du côté matériel. Et ce côté mis à part, ce dimanche, nous débutons une période spéciale. Vous l'avez déjà deviné, nous sommes le premier dimanche de l'Avent. Alors, moi, je vous avoue, il n'y a qu'un an que j'ai appris que ça ne s'écrivait pas A-V-A-N-T. Je pensais que ça voulait dire avant Noël. Je l'ai appris il y a un an. J'ai honte. Alors en fait, pour les cancres comme moi, le mot « avant »,« avent », qui vient du mot « aventus », qui signifie « la venue ». L'avant, c'est un temps de réflexion biblique, de préparation spirituelle à cet événement si important pour la foi chrétienne, la naissance de Jésus, la venue du Christ. Alors nous avons installé cette couronne de l'avant qui symbolise ces quatre semaines, ces quatre dimanches d'attente jusqu'à Noël. Alors j'ai appris aussi dernièrement qu'il y a une signification en fait à chaque bougie. J'avoue que j'ai oublié. On a vu. Il y a ça qui paraîtra dans le prochain Riou. Quand vous aurez le prochain Riou, vous aurez la signification des quatre bougies. Nous allumons la première aujourd'hui. Nous sommes le premier dimanche de l'Avent. Et durant ces dimanches à venir, nous serons conduits progressivement, notamment dans la prédication, vers le jour J, en repensant à toute l'importance de ce bouleversement dans l'histoire de l'humanité, la venue du Christ. Aujourd'hui, je vous invite à débuter cette période de manière assez douce, assez paisible. Je vois tout le monde un peu fatigué, le temps nous fatigue aussi en ce moment, nous sommes en manque de soleil. Eh bien, nous allons continuer dans la douceur. Je ne vais pas vous brusquer ce matin. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui fera office de prédication. Une histoire pas bien originale, vous le verrez. Cette histoire débute avec Dieu. Un Dieu immense, infini, infini dans tout ce qu'il est, qui se suffit à lui-même, qui n'a besoin de rien, mais qui décide par amour de donner la vie à une créature faible, limitée, l'être humain. Et cet humain, Dieu le place dans un écrin de perfection, un monde rempli de beauté, où l'humain pourra jouir de tous les bienfaits de Dieu. Et le plus grand de ces bienfaits, c'est de pouvoir jouir d'une relation directe avec son Créateur. Le Créateur en relation directe avec sa créature, l'humain en dialogue avec son Dieu. Quel cadeau magnifique! Quel monde parfait! On aimerait que cette histoire s'arrête là. Mais cette histoire se poursuit. L'humain est heureux, comblé, mais il en veut toujours plus. Il veut prendre en main les rênes de sa vie. Il veut pouvoir décider lui-même de ce qui est bien ou mal. Il veut devenir comme Dieu. La créature envie son créateur et l'humain alors désobéit. Il se rebelle. Il rejette l'autorité de son Dieu. Il détruit le cadeau si précieux qui lui avait été fait. Il met fin à la relation parfaite qui l'unissait à Dieu. Ironie du sort, l'humain pensait alors se hisser à la place de son créateur, mais il ne faisait que se perdre lui-même. En refusant son Dieu, il se retrouvait seul, seul face à la vie, seul face à la mort, seul face à l'éternité qui l'attend. Mais Dieu réagit aussitôt. « Non, je ne laisserai pas l'homme seul face à ses erreurs. J'ai un plan et je vais le mettre en action dès maintenant. » Et voici ce qu'il dit au diable, à l'accusateur, au prince du mensonge qui avait entraîné l'humain dans l'erreur. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. L'humanité était avant unie en Dieu. Maintenant, elle sera divisée. D'un côté, la descendance de l'accusateur en rébellion contre Dieu. De l'autre, un peuple appartenant à Dieu, un peuple avec qui cette relation perdue sera restaurée. Mais quand ? Comment ? Quel est ce plan de Dieu pour restaurer la relation brisée ? Dieu nous l'a annoncé, de la descendance de la femme doit naître un sauveur qui écrasera l'accusateur, qui délivrera le peuple de Dieu, qui restaurera la relation avec le Créateur. Dès ce moment, nous voici dans un temps de l'avant, dans une attente fébrile. Quand notre Dieu enverra-t-il ce Sauveur ? Jusqu'à quand cette relation sera-t-elle brisée ? Une attente peut-être pénible. Vous le savez comme moi. Attendre, c'est être incertain de ce qui arrivera. Attendre, c'est espérer sans savoir. Attendre peut rimer avec impatience, angoisse, déception, désespoir. Nos vies sont faites d'attentes incessantes. Attendre la fin de nos études avant de pouvoir travailler. Mais quelle assurance avons-nous de nos jours de trouver un emploi et même d'en être satisfait ? Attendre de rencontrer celui ou celle qui partagera notre vie. Mais quelle assurance avons-nous de rencontrer la bonne personne ? Attendre le repos bien mérité de la retraite après une vie de labeur. Mais quelle assurance avons-nous que ce repos ne finisse pas en isolement. Attendre la venue de la fin de notre vie, puis attendre quoi ? Nous ne savons pas. Sans Dieu, l'attente finit toujours par l'inconnu et par l'angoisse. Il n'y a qu'en Dieu que l'attente est différente, car attendre un bienfait promis par le Dieu Tout-Puissant ne conduit jamais à la déception. Mais toujours à la joie, la réalisation de la chose promise, à l'émerveillement face à l'amour et la grandeur de notre Créateur. Je me suis écarté de notre histoire. Où en étions-nous ? L'humanité divisée attend celui que Dieu a promis, celui qui doit rétablir la relation avec Dieu. Et l'humanité continua sa route, loin de Dieu. Puis Dieu appela un homme, un dénommé Abraham. Il bénit cet homme, il lui donna des victoires, des biens, un pays. Cet homme serait-il celui que Dieu avait promis, celui qui doit restaurer la relation qui a été brisée ? Eh bien non. Non, ce n'est pas lui. Et l'attente dure encore. Quelle déception. Déception ? Non. Car Dieu renouvelle à Abraham la promesse qu'il avait faite. En Genèse, chapitre 17, les versets 4 à 7, Dieu dit à Abraham : Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, père éminent, mais Abraham, père d'une multitude. Car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants et je te donnerai d'être à l'origine de diverses nations. Des rois même seront issus de toi. Je maintiendrai éternellement mon alliance avec toi, puis avec ta descendance après toi, génération de génération en génération. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. » Le plan de Dieu est en marche. Il se précise. Le Sauveur à venir devait être de la descendance de la femme. Avouons que c'est un peu vague. Maintenant, le Créateur annonce à sa créature, Abraham, que le Sauveur viendra dans sa descendance. Et pour l'éternité, Dieu promet de rétablir la relation qui a été brisée. Dieu le dit, en vertu de cette alliance, « Je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. » L'attente se précise, mais elle dure encore. Et toujours, cette attente se fait dans l'assurance de la toute-puissance de Dieu. Dieu promet, alors notre attente peut être sereine, car lorsque Dieu promet, Dieu fait. L'attente n'en est pas moins longue. Mais enfin, nous pouvons attendre dans la paix. Dieu n'a pas oublié sa promesse. Il la rappelle, il la renouvelle, il la précise. Et l'attente se poursuit. D'Abraham naît un peuple qui se multiplie, se développe, un peuple que Dieu délivre d'une famine en l'envoyant en Égypte pour y trouver de la nourriture, mais un peuple qui devient alors esclave des Égyptiens. Le peuple de Dieu souffre, il n'attend plus rien. Dieu semble l'avoir abandonné, avoir oublié sa promesse. Dieu appelle alors un homme, Moïse. Il envoie cet homme pour délivrer son peuple de l'esclavage. Et Moïse réalise des prodiges, des miracles comme la terre n'en a jamais connu avant lui. Il parle à Dieu face à face. Il vit enfin la relation qui avait été brisée. Par lui, Dieu fait une alliance avec son peuple, la restauration totale de la relation semble plutôt bien partie. Serait-ce enfin celui que Dieu avait promis depuis le commencement, celui qui doit rétablir cette relation avec Dieu? Encore une fois, non. Moïse conduit le peuple, effectivement, durant toute sa vie, mais il finit par mourir. Et qu'est-ce qui a changé? La relation du début est-elle rétablie entre l'humain et son Dieu? Non. C'est une alliance, certes, mais une alliance faite de lois, de directives à suivre. C'est déjà mieux que rien, mais si notre attente doit conduire à ça, avouons-le, quelle déception! Mais là où nous pourrions perdre espoir, Dieu renouvelle encore sa promesse. Il la renouvelle à Moïse. Il nous rappelle que ce qu'il a promis se réalisera sans erreur, sans déception. Il promet à Moïse, en Deutéronome 18:18, « Je vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. » Un autre viendra dans ce peuple qui descend d'Abraham, quelqu'un qui sera comme Moïse, faisant des miracles, parlant à Dieu face à face, mais qui sera plus grand que Moïse, car il ne viendra pas établir une relation faite de loi, mais une relation d'amour, de cœur et d'esprit. Par cette alliance avec Moïse, Dieu avait partiellement accompli sa promesse. Il s'est choisi un peuple, mais la relation parfaite n'est toujours pas rétablie. Si j'attends un événement avec impatience, lorsque le jour J arrive, je peux être soit comblé, soit déçu, suivant ce qui se passe. Je peux me former à un emploi avec impatience et être déçu par la réalité du terrain. Je peux attendre le repos bien mérité de la retraite et n'y trouvait qu'ennui et longueur de temps. Nous attendions une relation parfaite, rétablie avec Dieu. Nous n'avons en Moïse qu'un ensemble de lois. Mais souvenons-nous, Dieu ne déçoit jamais lorsqu'il promet un bienfait. La déception vient juste de ce que le jour J n'était pas encore arrivé. L'attente dure toujours, mais Dieu ne laisse pas le désespoir s'installer. Il renouvelle sa promesse et il la précise encore un peu plus. Le peuple attend toujours. Il s'installe dans un pays que Dieu lui donne. Il essaie de respecter les lois que Dieu lui a données. Mais comme l'attente dure, dure et dure encore, le peuple fait ce que nous ferions tous. Il oublie. Il se lasse. Il abandonne. Alors Dieu appelle un homme à nouveau, David. Il le nomme roi de ce peuple. Dieu est avec lui. Il lui donne la victoire sur de très nombreux ennemis. Moïse était prophète. David, lui, est roi et prophète. Il règne sur le peuple, mais il vit aussi une relation parfaite avec son Dieu. Serait-il celui que Dieu avait promis ? Cette question qui revient, et cette réponse qui revient encore, non. Car David veut bâtir un temple en l'honneur de Dieu pour que le peuple puisse venir dans ce temple et retrouver une relation parfaite avec Dieu. Mais Dieu dit à David, « Non, ce n'est pas toi qui me bâtiras un temple. Ce n'est pas toi qui rétabliras la relation parfaite entre mon peuple et moi. » Ce pourrait être une nouvelle déception, mais nous l'avons vu, Dieu à chaque fois ne laisse pas l'humain se décourager. Au contraire, à chaque fois que la déception était là, Dieu a renouvelé sa promesse. Et ici, il fait de même avec David. En effet, après lui avoir interdit de lui bâtir un temple, Dieu lui annonce ceci en 2 Samuel 7. Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur et je maintiendrai à toujours son trône royal. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. La promesse se renouvelle et elle se précise encore. Le sauveur devait venir de la descendance de la femme, puis d'Abraham. Maintenant, nous apprenons qu'il viendra de la descendance de David. Le sauveur devait être un prophète comme Moïse. Maintenant, Dieu nous annonce qu'il sera aussi un roi qui règnera sur le peuple de Dieu pour l'éternité. Dieu nous dit qu'il fera durer son trône à toujours. Le sauveur devait être un homme. Dieu nous annonce qu'il sera en réalité le Fils de Dieu en personne. Il nous annonce que son Fils viendra pour nous dans une chair humaine. Par amour pour nous, Dieu s'humiliera jusqu'à prendre notre propre condition, la condition humaine. Il sera notre sauveur, notre roi et notre Dieu. Et il rétablira la relation parfaite que l'humain avait rompue. David voulait construire un temple pour Dieu et il aurait pu être déçu par son refus. Mais Dieu lui renouvelle sa promesse, il la précise encore, la rendant plus glorieuse que tout ce qui avait pu être annoncé auparavant. David n'est alors pas déçu, il est émerveillé. Et voici ce qu'il dit dans son bonheur immense, après avoir entendu la promesse faite par Dieu. Seigneur éternel, qui suis-je ? Et qu'est donc ma famille pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ? Et comme si ce n'était pas déjà suffisant à tes yeux, Seigneur éternel, voilà que tu fais encore à ton serviteur des promesses pour l'avenir lointain de sa dynastie. Seigneur éternel, cela sied-il à un humain ? Que pourrais-je te dire de plus ? Seigneur éternel, tu connais toi-même ton serviteur. C'est parce que tu l'as promis et que tu en as décidé ainsi que tu as accompli ces grandes choses et qu'en plus tu les as révélées à ton serviteur. Que tu es grand, éternel Dieu. Il n'y a personne comme toi, il n'existe pas d'autre Dieu que toi. Notre histoire ne finit pas ainsi, même si pour aujourd'hui je l'arrêterai là. Vous et moi savons peut-être ce qu'il en est de la suite. Dieu a envoyé son Fils, Jésus, pour sauver son peuple, pour effacer nos fautes qui nous séparaient de Dieu, pour réparer la relation qui avait été brisée, pour construire à Dieu un temple, ce temple qui est l'Église, l'ensemble des croyants, pour être le roi de ce peuple, ainsi que son Dieu, et ce pour l'éternité. Dans notre histoire, l'attente dure, et dure encore. Depuis Abraham jusqu'à Jésus, plus de 1800 ans se sont écoulés. Que d'occasion de perdre espoir. Mais nous l'avons vu, Dieu toujours nous réconforte dans notre attente, il nous assure de sa fidélité, il nous a promis un sauveur, il a envoyé son propre Fils. Il nous a promis de rétablir la relation brisée, il a pardonné nos fautes et nous a donné son esprit en nous pour vivre cette relation intime avec lui. Mais notre attente dure toujours, car il nous a promis le retour de son Fils, et nous l'attendons. En ce premier dimanche de l'Avent, souvenons-nous de la fidélité de Dieu. Ne vivons pas notre attente dans la crainte, mais dans la paix, quelle que soit l'attente que nous pouvons vivre dans nos vies. Vivons-les dans la paix. Soyons rassurés par ce que la Bible nous raconte. Dieu est fidèle. Il tient ses promesses jusque dans l'éternité. Amen.